Patricia Martin, votre invitée à présent, Florence Obna, grand reporter au journal Le Monde.
Florence Obna, bonjour.
Bonjour Patricia.
Vous voulez bien décliner votre identité? Vous êtes belge ou vous êtes française?
Alors je suis française. Née française en Belgique.
De parents français.
De parents français en Belgique. Mais donc mes parents travaillaient en Belgique à cette époque et donc étaient émigrés d'une certaine manière.
Et vous y avez passé 18 ans de votre vie.
J'ai passé 18 ans de ma vie.
Mais vous avez envie d'avoir la nationalité? Là, c'est le contraire d'Annie Cordy qui, elle, était de nationalité belge et qui ensuite a eu la nationalité française. Vous voudriez demander la nationalité belge?
Exactement. C'est une procédure que j'ai lancée, à vrai dire, au moment où François Hollande, alors président, avait parlé de la déchéance de nationalité. Mmh. Et je trouvais qu'il était juste que je puisse moi aussi être déchu de ma nationalité, c'est-à-dire en avoir une double. Et c'était une forme de solidarité avec, je trouvais cette mesure particulièrement injuste et malvenue. Et donc voilà, c'était une manière de m'inscrire en solidarité avec ça. D'autre part, c'est vrai qu'on parle beaucoup d'Europe, qu'on parle beaucoup de liens entre les pays européens. Et c'était aussi une manière d'affirmer ça, c'est-à-dire que ma génération, donc moi j'ai commencé à être journaliste dans les années 80, ma génération, on se voulait, en tout cas moi je me voulais, journaliste entre guillemets de la paix. C'est-à-dire qu'on s'était dit, voilà, l'Europe est en train de se créer, le mur de Berlin va tomber... On avait cette espèce d'objectif, sans même y penser d'ailleurs, hein, c'était tout simplement ce qui nous poussait. Et je me souviens que la première fois on m'a dit, mais tu es journaliste de guerre, je n'ai pas compris, j'ai dit, mais non, nous on couvrira plus de guerre, c'est fini les guerres. C'était extrêmement naïf bien sûr, et je dois dire que les guerres nous ont rattrapés.
Vous avez commencé à Libération, au Fait divers, vous avez découvert donc une France particulière. Vous avez toujours aimé le terrain, mais est-ce que c'est précisément parce que vous nous trouviez peut-être, étant malgré tout belge sans être belge, mais
grandi en Belgique, en tout cas.
Grandi en Belgique, vous nous trouviez exotiques les Français?
Exotique, non, mais c'est vrai qu'on n'a pas la même relation avec un pays où on a grandi. On n'a pas cette même, j'allais dire, intimité qu'avec le pays de son enfance.
Il n'y a pas le même sentiment patriotique, c'est quoi?
Ça n'a rien à voir avec le patriotisme. Non, je pense que c'est tout simplement une manière de se sentir tout à fait chez soi. C'est-à-dire que
France n'était pas votre culture?
C'était ma culture virtuelle. Mmh. C'est-à-dire que on grandissait dans l'idée que la France, on allait y retourner faire nos études, ce qui s'est effectivement passé pour moi, que c'était notre pays, un pays rêvé, donc tout était, quand on est gamin, on dit ça, tout était mieux en France, que dès qu'il y avait un match France-Belgique, on était pour les Français. Vous voyez, des choses qui font écho avec des gens qui ont une double nationalité en France aujourd'hui.
Et puis vous veniez en vacances.
J'y venais en vacances, je connaissais la France, j'aimais bien ça, mais à la fois, ça n'était pas en effet chez moi. Et donc quand je suis arrivée en France, c'est vrai qu'il y a toujours eu cette petite distance qui n'existe à vrai dire plus maintenant. Hein, j'y habite depuis tellement d'années.
Donc la France c'est chez vous maintenant.
Maintenant c'est chez moi. Maintenant,
et quand vous allez en Belgique,
c'est le pays de l'enfance. Mm-hmm. Donc c'est une grande chance d'avoir deux pays, même s'ils semblent très voisins, très proches. Et aujourd'hui, ça fait sourire de se dire on est binational, franco-belge. Ça paraît tellement proche, tellement la même culture.
Exactement. Et en fait, non.
En fait, non. En fait, non, c'est très différent. C'est
donc très différent. Des Charline Van Anecker, des Alex Jezorek, des Nathalie Amélie Nothomb, etc. En fait, vous pensez qu'ils ont un peu le même sentiment que vous?
Oui, je pense aussi. Je pense que vous parliez de Charline Van Anecker, donc qui fait une chronique sur Inter. C'est vrai
une
que je pense.
Une émission même.
Ouais, une émission même. C'est vrai.
Oui, je chronique le matin. Le matin.
Voilà, c'est plutôt du matin. Voilà. Et donc, en fait, je pense que ça donne une liberté par rapport au pays. Ça donne un pas de côté. Ouais. Et pas de côté qui a aussi été le mien pendant longtemps.
Et vous avez eu l'accent belge?
J'ai eu l'accent belge. J'ai eu l'accent belge. Parfois, on dit que je l'ai encore.
Non, moi je trouve pas.
Ah bon?
Vous trouvez? Bon, non.
Je n'ai pas trouvé. Non, je m'entends
mais
pas.
Comment au téléphone? L'accent de Bruxelles, en fait.
L'accent de Bruxelles. Mais la ville de Caen, par exemple, vous prononcez ça comment?
Alors, la ville. C'est vrai que pendant longtemps, les villes françaises la France, je ne le connaissais que pour l'avoir lu. Mm. Et pendant très longtemps, je prononçais Caen. Donc il y avait tout un tas de mots comme ça qui étaient des mots lus, des mots connus par extérieur, mais que je n'entendais pas prononcer. Moi, j'entendais Bruges, Anvers, Antwerpen. Je vous le dis même en flamand dans le texte.
Florence Obna, puisque j'en reviens là à l'interview qui est faite de vous dans l'excellente revue Zadig qui vient de sortir, qui est consacrée donc au changement de vie. Changer de vie, c'est le titre. Que vous inspire justement cette tendance actuelle qui semble toucher de plus en plus de gens, Beaucoup de Français s'organisent justement pour changer de lieu, pour changer de métier, pour peut-être aborder le temps différemment.
C'est vrai que c'est très frappant, c'est-à-dire que beaucoup de personnes que vous n'imaginiez pas. Je vous donne un exemple. L'autre jour, je croise par hasard une personne qui a un poste très haut dans les médias, qui fait une émission à la télé, émission fêtée, très réussie, etc.
Là, on a besoin de savoir.
Ouais, c'est ça. Non. Et donc, elle me dit, voilà, je commence jeudi, et on lui demande, mais quels sont tes invités? Je la tutoie. Et tout à coup, elle me regarde, elle me dit, j'ai oublié. Et donc, c'était 2 jours plus tard. Et c'est tout simplement le fait que tout à coup, ce qui vous semblait vital il y a encore 6 mois, tout à coup vous échappe. On a tous des espèces de comme ça de blanc, de d'absence, je sais pas comment dire.
Et ça, c'est lié au Covid.
C'est lié au confinement, c'est lié au Covid, c'est lié à une autre façon de penser. Et je pense que des gens qui sont tellement investis dans leur métier, comme peut l'être une émission de télé où on se bat bec et ongles pour la conserver, qu'on arrive à dire ça, c'est pour ça que je donne cet exemple. C'est ça. Et c'est vrai que c'est à tous les niveaux, c'est-à-dire que des gens réfléchissent autrement, des prix de maison se mettent à monter en Lozère alors que Paris s'effondre. Enfin,
Paris s'effondre alors que les politiques, de ce point de vue-là, ont un train de retard, mais la centralisation, l'État jacobin, tout ça, ça va à l'encontre de la façon dont les gens vivent maintenant, dont les gens se mettent à vivre maintenant.
C'est vrai que le confinement l'a révélé, cette menace du Covid, et c'est quelque chose qui est extrêmement frappant et je pense qui est essentiel. C'est-à-dire que je pense que le pays a tenu, a fait face et a fait face dignement parce que les gens, les acteurs locaux se sont emparés des choses. C'est-à-dire qu'un maire d'une commune qui d'habitude se fait taper sur les doigts dès qu'il prend un arrêté comme ci ou que il est un petit peu avec une directive un petit peu de côté, là a dit bon ben voilà, j'ai un cas, je ferme l'école. Il n'a pas appelé l'éducation nationale, il n'a appelé personne. Chacun a pris ses responsabilités d'hommes et de femmes sur le terrain. Et je pense que c'est vraiment ça qui a tenu le pays. C'est-à-dire que on a dit il y a pas de masque, qu'est-ce que je vais faire? Je vais en chercher. Les gens ont pris leur voiture, ils se sont organisés. Et ça a été quelque chose de très frappant. Dans des hôpitaux, je me souviens d'un reportage en Alsace que j'ai fait à ce moment-là, et où les directeurs d'hôpitaux disaient, voilà, moi j'ai fait une unité Covid. Je n'ai demandé l'avis à personne, je n'ai pas demandé l'avis à l'ARS, je n'ai pas demandé l'avis à mon supérieur. Si j'avais demandé cet avis, on serait encore en train de compter les morts. Et c'est ça qui s'est passé en France, c'est-à-dire que le jacobinisme de fait est tombé pendant ces mois de confinement.
En quelques secondes, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, ce train de retard, vous semblez dire aussi que les journalistes l'ont, qu'ils ont raté beaucoup de choses, et que notamment le journalisme des montagnes, on n'a pas le temps d'expliquer ce que c'est, mais qu'au fond, ils ont leur part, disons, dans le délitement de la démocratie.
Bien sûr, je pense que toutes les institutions, tous les institutionnels, toutes les personnes qui se centralisent ont leur part dans cet effondrement-là. Et je pense que c'est le moment, nous aussi, de se dire, voilà, il faut que on aille sur le terrain. Et ça, je pense que c'est vraiment la clé du journalisme aujourd'hui.
Merci Florence Aubenas, ça fait toujours plaisir de vous recevoir.
Parole précieuse, merci beaucoup Florence Aubenas. Dans quelques secondes, il sera 8h.